Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Immo Lounge, l'émission de Radio Judaïca consacrée à l'immobilier. Gali Baron au micro. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver une jeune femme que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois, une architecte de formation qui va nous replonger dans le bien-être chez soi. Bonjour Fiona Benkens.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bien, ravie d'être de retour.
Ben écoute, nous le sommes aussi. Tu deviens presque une habituée de l'émission. En tout cas, ça me fait très très plaisir de te recevoir à nouveau dans l'Immo Lounge. Alors, la dernière fois, nous avons eu l'occasion de toucher à plusieurs thèmes. Le bien-être chez soi, la neuro-architecture, le feng shui, l'habitat. Thérapie, et j'en passe, que l'on retrouve d'ailleurs sur ton site Better at Home ou sur tes réseaux, puisque tu es également active sur les réseaux sociaux. Alors, prenons le temps aujourd'hui et peut-être même une prochaine fois, si tu le veux bien, parlons de approfondissons en fait certains aspects qui avaient été juste survolés la fois dernière. Alors, mais avant de te poser quelques questions, pourrais-tu peut-être te représenter aux auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter la première fois ?
Oui, alors voilà, moi c'est Fiona, comme tu l'as bien dit, et je suis architecte spécialisée dans le bien-être. Globalement, mon objectif, c'est de regarder comment on réagit à l'espace, que ce soit au niveau cérébral, du coup ça touche plus à la neuro-architecture, qui est vraiment le lien entre les neurosciences et l'architecture, et donc l'étude de comment le cerveau réagit à l'espace. Et puis, il y a des choses qui sont plus de l'ordre du subtil, du ressenti, de la psychologie des couleurs, de comment on va se comporter dans un espace, pourquoi. Donc voilà, c'est le mélange de ces deux mondes qui fait ma profession.
Très bien. Alors, avant encore de démarrer avec la question, je voulais quand même te féliciter.
Ah bon ?
Ah oui, je voulais te féliciter. Pourquoi, me demandes-tu ? Mais car j'ai eu l'occasion de suivre sur YouTube ta prise de parole dans un TEDx.
Merci beaucoup.
Où tu étais sur scène. Et voilà, tu l'as très bien fait. Je trouvais ça magnifique et chapeau parce
Merci.
Que ça doit être... loin d'être évident. Veux-tu peut-être en dire quelques mots
Avec
comme
plaisir.
Ça voilà.
C'est vrai que la neuroarchitecture est un sujet qu'on connaît très peu et j'ai eu l'occasion de le présenter à Genève dans le cadre de TEDx, qui est donc une organisation qui organise des conférences. Et donc, c'était une super expérience. C'est vrai que c'était une première scène pour moi, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc, c'était très, très gai.
En tout cas, bravo parce
Merci.
Que voilà, tu l'as vachement bien fait et voilà, je ne sais pas si beaucoup de personnes sont capables de le faire comme ça.
Merci beaucoup.
Donc bravo. Alors commençons par une question qui paraît toute bête. Pour toi, c'est quoi une maison ? En tant qu'architecte et avec tout ce que tu as à côté, tout ce que tu fais, c'est quoi une maison ?
En fait, une maison, c'est le seul lieu pour moi où on peut être 100% soi-même. C'est vraiment la sécurité, c'est vraiment le lieu dans lequel on devrait pouvoir tout déposer.
Oui.
Et donc, c'est vraiment ce sentiment de sécurité. J'aime bien la comparer à la grotte de l'homme de Cro-Magnon.
Oui.
C'est vraiment, il se passe énormément de choses dans le monde extérieur. On est surstimulé tout le temps. Il y a l'hyperconnexion, il y a tout ce que la vie peut nous offrir. Il y a des choses magnifiques aussi, hein. C'est pas que du négatif. Mais donc, le monde extérieur est rempli d'informations. Et pour moi, la maison, ça doit être l'endroit où on peut vraiment venir se reconnecter à l'essence même, quoi.
Donc, avec tout ce que les architectes ont fait depuis des années, finalement, on retourne dans une grotte.
Tout à fait. Honnêtement, si les architectes revenaient un peu plus à la grotte, on se porterait beaucoup mieux.
C'est vrai. Alors, peut-être quand on va construire, quand on va déménager ou qu'on fait des transformations dans son intérieur, à quoi est-ce qu'il faudrait penser ? D'abord, peut-être au niveau structurel, après on ira un petit peu plus loin au niveau immobilier, mais d'abord au niveau structurel.
C'est une très bonne question. Donc, je me focalise vraiment sur la construction et la rénovation. C'est clair que quand on emménage ou qu'on est en location et qu'on a moins la main sur la structure, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais les premières clés, les premières bases, c'est évidemment de faire en sorte que tout puisse être positionné pour que le cerveau se sente en sécurité. Et donc, on va vérifier tout ce qui est orientation, Alors, beaucoup d'architectes travaillent l'orientation avec la lumière et le sud, évidemment. Moi, je la travaille avec l'est et avec l'ouest, avec le soleil qui se lève et qui se couche, en fonction des besoins d'orientation, des lits, pour avoir un sommeil le plus réparateur possible, des choses comme ça. Et puis, ben voilà, on va vraiment aller organiser les pièces pour être certain qu'elles répondent à nos besoins en fonction de beaucoup de paramètres.
Et quand tu dis organiser les pièces, est-ce qu'on va organiser les pièces, je dirais, de manière peut-être un peu standardisée? Pour tout le monde, c'est pareil au niveau de l'organisation, ou bien ça va véritablement dépendre de la personne que tu as en face de toi?
C'est le grand problème de l'architecture pour moi, c'est qu'il ne faudrait jamais standardiser une construction. Mmh. C'est que quand on a un immeuble avec 25 appartements et qu'on fait des copier-coller, théoriquement, ce n'est pas la bonne option, puisqu'un lieu doit vraiment répondre à l'énergie d'une personne. Et donc, évidemment que l'emplacement de la chambre, qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas, tout ça, ce sont des choses qu'il faut penser en fonction des besoins. Où est-ce qu'on va mettre les chambres d'enfants? Il y a des lieux qui sont plus intéressants dans la maison, dans l'organisation d'un espace que d'autres, donc c'est vraiment sur mesure. Alors, on a deux sphères qui sont très différentes et qu'il est important de comprendre. Oui. On a celle qui est la neuro-architecture, qui va vraiment être que une question de il faut vérifier que je ne mette pas une salle de bain derrière ma tête de lit, il faut que je vérifie que ma tête de lit puisse être bien positionnée, il faut que je mette la porte d'entrée de façon à ce que je la vois, que les fenêtres soient bien mises pour éviter la circulation d'énergie. Ce sont tous des concepts qui sont très théoriques et qui là, en effet, s'appliquent. C'est les mêmes concepts pour tout le monde. Il va juste falloir s'adapter au plan et à ce qu'on peut faire.
Oui.
À côté de ça, on a tout ce qui va être plutôt lié au feng shui, qui va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus dans l'énergétique, et qui va être vraiment le feng shui à plusieurs zones. Et il y a des zones dans lesquelles c'est moins intéressant de mettre des chambres, il y a des zones dans lesquelles c'est plus intéressant de mettre des chambres. Il y a plein d'éléments à aller voir de façon plus subtile, je vais le dire comme ça.
Et quand tu parles de zone, tu veux dire quoi?
En fait, dans le feng shui, on analyse vraiment un lieu avec plusieurs éléments. Donc, on a des éléments en fait, qui reviennent aux cinq éléments de la nature. Enfin, dans la nature, il y en a quatre, mais dans l'habitat, il y en a cinq, qui sont le feu, l'eau, la terre, le bois et le métal. Et l'objectif du feng shui, c'est quoi? C'est simplement de faire en sorte que l'énergie qu'on va retrouver dans un bois, dans une forêt, qui est vraiment la connexion à tous ces éléments-là, qu'on la mette dans notre intérieur. Ce qui aujourd'hui est très compliqué parce qu'on est dans de la pollution tout le temps, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit électromagnétique, qu'elle soit... Enfin, il y a de tout. Donc, avoir cette énergie vitale qu'on va retrouver dans la nature et dans la forêt, chez soi, c'est très compliqué. Et donc, ce que le feng shui demande, c'est de revenir à un équilibre entre ces cinq éléments. Et chaque zone de la maison, en fonction de plein de principes, correspond à un élément. Et donc, il y a des chambres qui ne sont pas intéressantes à mettre dans une zone qui est un élément haut. Il y a des salles de bain qu'il faut bien penser aux bons endroits. Et plus c'est juste par rapport aux théories que présentent des disciplines comme le feng shui, mieux on se sent chez soi.
Ok. Et est-ce que on va utiliser plutôt dans certaines pièces certains matériaux, ce qui semblerait assez logique, mais ça aurait un impact sur la manière dont on va être soi-même.
Bien sûr, les matériaux, c'est la base, c'est très très important de bien les penser. Alors, il y a là aussi plusieurs façons de penser les matériaux. On va avoir tout ce qui est quand même très fort, la pollution électromagnétique. Donc je rappelle que la pollution électromagnétique, ce n'est pas quelque chose d'intangible. C'est simplement une prise qu'on charge qui émet un champ qui nous fatigue. C'est un fait. Alors on vit dans une société où il y a de la 5G partout. Donc évidemment que nos corps commencent à être aussi adaptés à ça et qu'on s'habitue de mieux en mieux. Mais dans des chambres, pour dormir, le corps est extrêmement vulnérable et il faut pouvoir protéger le corps de tout ça pour avoir un sommeil le plus réparateur possible. Et donc, dans les matériaux qu'on...
Sommeil, on va revenir soit tout à l'heure, soit la prochaine émission sur le sommeil, parce que c'est un élément important.
C'est super important.
Voilà, je sais que c'est important
donc,
pour toi également
donc,
au niveau de la...
Tout à fait. Et donc, dans les matériaux, on va avoir des matériaux qui absorbent les ondes, qui les renforcent. On a des matériaux qui les diffusent. Et donc, il va falloir penser, par exemple, le métal est un matériau qui va renforcer, qui va appeler. On appelle ça le champ électromagnétique. Donc si on a une télévision branchée de l'autre côté de la chambre, avoir un lit en métal va presque venir chercher, on pourrait imaginer, les ondes
de la télévision.
Un lit en bois, par exemple, va les diffuser. Donc là, on va avoir une prise dans une tête de lit en bois. Au lieu d'avoir le champ électromagnétique juste autour de la prise, on va l'avoir sur toute la tête de lit. Donc il y a des solutions pour ça, mais il faut le savoir parce que du coup, il faut choisir les matériaux et il faut mettre des choses en place pour éviter ces choses-là. Donc ça, c'est pour les matériaux. Et puis, il faut, à côté de ça, les matériaux ont des symboliques. Oui. Le bois nous ramène à tout ce qui est la nature, mm-hmm. du coup les arbres, du coup il y a une grande symbolique de famille dans l'élément du bois. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est une énergie que j'ai envie de mettre chez moi? Comment l'acier va avoir
d'ailleurs, on dit simplement, voilà, pour le métal par exemple, on va dire c'est plus froid.
Voilà, l'acier, que le bois, c'est quelque chose de très dur. Donc l'acier, on va pouvoir le retrouver chez des personnes qui sont attirées par l'acier théoriquement. Ce seraient des personnes où on peut creuser tout ce qui est être beaucoup plus dur avec soi émotionnellement. La brique, c'est très beau, un beau mur en brique, mais si toute la famille est dans l'histoire de la famille, tout le monde est architecte et que ça prend beaucoup de place, est-ce qu'on va réussir à se détendre dans son salon avec un grand mur en brique alors que ça représente la lignée de père en fils du travail d'architecte dans la famille? Je ne suis pas sûre. Donc les matériaux se travaillent et pour le bien-être très concret au niveau de tout ce qui est pollution et vraiment le bien-être physique, mais se travaillent aussi au niveau des symboliques de ce qu'on veut chez soi.
Ok, donc il y a, on va dire, une part, enfin en ce qui concerne les matériaux, ça va être une partie un peu standard, puisqu'on va dire, voilà, le métal est plus froid, le bois, ça va être plus famille, etc. Mais en même temps, ça va également être propre à chaque personne.
Toujours. Toujours. C'est la règle de base. C'est que il n'y a pas de théorie. Jamais deux personnes ont besoin de la même chose. Et ce qui, sur papier, est très bien pour l'une pourrait être une catastrophe pour l'autre.
Très bien. Alors, je vais te proposer de faire une petite pause musicale. Merci. Et comme ça, on reprend après. On va écouter Vianney, Kenji Girac et Soprano dans Je suis fou. On te retrouve dans quelques minutes de retour dans Limo Lounge. Je vous rappelle que notre invitée du jour est Fiona Benkens.
Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Certains pensaient qu'ils dérangeaient, trop différents, trop à côté. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là.
Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare. Que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il l'abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là.
Et toi, troquer le jeu contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Contre le nous,
qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou.
Et toi, qui tends la main vers celui qui n'a rien,
sans en vouloir à celui qui a tout.
Si pour ça, tu es fou.
De retour dans l'Imo Lounge avec notre invitée du jour, Fiona Benkens, pour parler architecture et bien-être chez soi. J'espère que cette musique
m'a beaucoup plu.
T'as plu, t'as fait du bien, tant mieux, tant mieux. Alors, on va continuer avec les questions concernant... Là, on avait parlé des matériaux. Si on considère, par exemple, la chambre, est-ce que cela va changer quelque chose d'avoir une pente ? On a souvent des chambres sous toiture. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ?
C'est très compliqué. les pentes, c'est souvent... en fait, il faut les penser directement avec l'aspect de où est-ce que j'ai une option pour mettre ma tête de lit pour bien dormir. Et donc, le grand problème aujourd'hui, c'est que quand on m'appelle pour un problème de sommeil et que j'ai une pente, c'est que souvent, il y a eu des meubles encastrés, il y a des choses qui font qu'il n'y a qu'une option et c'est la mauvaise pour positionner le lit. Et c'est pour les chambres d'adultes et pour les chambres d'enfants, très problématique. Pour les chambres d'enfants, la solution est beaucoup plus simple parce qu'on peut venir refermer une partie et mettre peut-être juste une partie dans une pente qui serait comme un mur pour créer un sentiment de protection. Pour l'adulte, c'est plus compliqué. Si, de nouveau, on peut travailler ces espaces en amont, quand on a le plan face à nous, peut-être que parfois, il suffit de décaler la porte d'entrée pour avoir la solution.
C'est ça.
La solution n'est pas nécessairement compliquée à la construction ou à la rénovation. La solution est souvent très compliquée quand on a un lieu qui est là et qui a un problème qu'on veut résoudre.
C'est ça.
Et donc voilà, pour la petite histoire, quand on parle d'une chambre et d'un lit, surtout pour l'enfant, il faut toujours un mur derrière et un mur sur le côté. Donc il faut trouver un coin. Le problème des pentes, c'est que du coup, ça peut être très bas et la tête de l'enfant peut se retrouver vraiment avec un mur qui est très très bas. Si on a un enfant qui a un stress au niveau de l'oppression, il suffit que pendant l'accouchement, il y a eu un sentiment d'oppression. Il suffit que l'enfant, de recréer ce sentiment dans la chambre pour que l'enfant ait un sentiment d'insécurité avant d'aller dormir et ne s'endorme pas.
Mais je pense que lorsque je vais faire des visites dans l'agence immobilière pour avec des candidats, je vais te prendre avec moi.
Avec
plaisir. Et comme ça, en direct, tu pourras leur dire voilà, votre enfant, vous devez le mettre là. Ça pourrait être une idée.
Tout à fait. Et on m'a déjà demandé, on m'a déjà posé beaucoup la question de faire une espèce de checklist, un espèce de programme de toutes les choses à vérifier pour acheter ou louer. Et c'est vrai que la première chose à voir, c'est avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est la base de tout, on en reparlera.
Oui, ça, on en reparlera. Je pense que ce sera l'émission d'après, si tu veux bien revenir.
Avec plaisir.
Alors, il y a un autre thème que tu abordes régulièrement, je dirais, c'est les couleurs.
Tout à fait.
Alors, parlons quelques minutes des couleurs.
Quelques minutes seulement.
On
peut en parler pendant 50 minutes.
Alors, est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Quelles sont les influences au niveau des couleurs ? Bon, évidemment, chacun d'entre nous, il y a des couleurs qu'il préfère, d'autres où il ne se sent pas bien avec. Mais de manière un tout petit peu plus profonde, peux-tu nous en parler ?
La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'une couleur, c'est bien plus que quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on ressent. Et donc, nous, on pense que la couleur, ça se joue par rapport aux yeux, ce qui est clairement le cas. C'est le cerveau rationnel qui dit j'aime pas, je trouve
tout
que
fait.
C'est beau, je trouve que c'est pas beau. Mais la couleur est avant tout un ressenti. C'est une longueur d'onde, c'est une énergie. Et donc, il faut vraiment commencer à penser la couleur avec autre chose qu'avec les yeux. Un bel exemple, par exemple, c'est dans tout ce qui est les tests sur la psychologie des couleurs, ça va très très loin. Y a beaucoup de recherches là-dessus. On s'est rendu compte que dans une pièce avec 4 murs rouges, la température du corps augmente un petit peu. Ce qui, moi, personnellement, ne m'étonne pas du tout puisque je suis dans le milieu tout le temps. Le rouge, c'est la couleur extrême du feu. La flamme, son intensité la plus forte, est rouge. Comme le corps réagit très fort aux éléments de la nature, le corps reprend le feu comme la chaleur. Donc, évidemment que dans une pièce avec 4 murs rouges, la température du corps peut augmenter un petit peu. Ce sera exactement l'inverse dans une pièce avec 4 murs bleus, puisque là, on est sur l'eau, on est sur quelque chose de beaucoup plus froid. Une personne aveugle a exactement le même phénomène. Donc la température du corps d'une personne aveugle augmentera aussi.
Ah oui, ça c'est étonnant.
C'est étonnant. Et à partir de ce moment-là, les études ont commencé à être poussées.
Parce à évoluer, évidemment.
Voilà, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus qu'une question de ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Les enfants, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de voir. Pendant la gestation, ils sont dans l'utérus et ils ont la vibration de la couleur abricot, qui peut tirer plus vers du rose ou plus vers de l'oranger, pendant 9 mois. On va retrouver cette couleur dans une chambre, l'enfant va être reprojeté dans l'utérus. Alors, en bien ou en mal, si la grossesse s'est bien passée, ça peut être une excellente idée pour donner un sentiment de sécurité à l'enfant. Mmh. Si la grossesse était plutôt dangereuse avec des stress, ça peut créer des terreurs nocturnes.
D'accord.
Et donc, ou autre, ou problème d'endormissement. Mais donc, plusieurs personnes vont dire, oui, mais l'enfant dans le ventre, il a les yeux fermés. Comment est-ce qu'il pourrait voir cette couleur ?
Mais
c'est pas voir, c'est la ressentir. Et donc moi, j'invite toujours à nous connecter un maximum de nouveaux éléments de la nature. La couleur qui est aujourd'hui le plus utilisée dans les intérieurs, c'est quoi ?
Le blanc.
Ben oui, parce que c'est beau, parce qu'on a appris que c'était beau, parce qu'on nous a...
Oui, et puis ça paraît neutre.
Ça paraît neutre, et dans les études d'architecture, de décoration, on nous dit le blanc, c'est une valeur sûre, ça agrandit l'espace, c'est sobre, et puis on peut jouer avec les éléments de décoration. Donc, en fait, avec le blanc, on ne prend aucun risque, et il y a un côté classe et sobre qui ressort, qui est vraiment ce qu'on a appris avec le mental. Sauf que l'inconscient, il
réagit autrement ?
Évidemment. Le blanc, c'est la neige. C'est l'élément le plus froid qui est dans la nature. C'est impossible d'avoir un sentiment de chaleur dans une maison toute blanche. Si on a besoin d'avoir une maison toute blanche, ça traduit un besoin émotionnel qu'il y a derrière. Donc, il ne faut pas dire c'est bien ou c'est mal. En général, ça traduit une histoire et un besoin ou quelque chose qu'il faut aller creuser. Mais le fait est que le corps ne sait pas se sentir bien dans 4 murs blancs. Et si vous jouez avec les enfants, parce que les enfants sont un terrain de jeu génial, parce qu'ils n'ont pas ce cerveau rationnel, donc il faut que ce soit des enfants de moins de 5 ans, jamais un enfant va vous demander de mettre 4 murs blancs dans sa chambre.
C'est ça. D'accord.
Voilà.
Et alors, quelles sont les couleurs ou en fonction des pièces, puisque voilà, j'imagine que la couleur ne sera pas la même dans le salon que dans la chambre.
Non.
Est-ce qu'il y a de nouveau des standards ? Je sais que tu n'aimes pas les standards. Tu sais,
oui, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités que c'est très dur de dire ça oui ou ça non. Alors après, il y a des couleurs. Et puis, c'est vraiment cette idée aussi que deux personnes n'ont jamais besoin de la même couleur. C'est au même endroit. C'est vraiment se connecter à de quoi est-ce que j'ai besoin, quelle énergie est-ce que je veux mettre chez moi. Et là, pour une personne, le vert sera l'excellente couleur. Une autre pourra avoir vécu quelque chose qui fait qu'il faut absolument éviter du vert parce que ça va lui rappeler quelque chose qu'il ne faut pas lui rappeler.
D'accord.
Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin, l'impact que peut avoir la couleur. Maintenant, il y a des règles de base.
Et quand on n'en est pas conscient
ça nous impacte, mais on n'a pas mis des mots dessus.
C'est ça.
Et c'est ce que je dis toujours, c'est il faut essayer pour comprendre. Et donc, toutes les personnes qui disent « oui, mais moi, ça ne m'impacte pas », vous pouvez dire que ça ne vous impacte pas après avoir essayé. Tant qu'on n'a pas essayé, en fait, c'est le rationnel qui prend le dessus, qui nous dit que ça ne nous impacte pas. Mais si on n'a pas testé, au final, on ne sait pas quel ressenti est différent. Et donc, ça, c'est intéressant quand je travaille avec des couples qui rénovent, qui aménagent, qui refont leur décoration et que l'homme n'est pas toujours d'accord avec la femme ou inversement. On trouve un terrain d'entente qui n'est pas une question de couleur, qui est une question de le besoin de l'un, le besoin de deux, et on trouve ce qui vient vraiment aligner les deux besoins. Et c'est en testant qu'on ressent.
D'accord.
Et donc c'est toujours la théorie, ce que je propose de mettre en place. Et donc si je devais vraiment dire des choses qu'on ne fait pas du tout, déjà mettre 4 murs dans la chambre d'enfant ou d'adulte en blanc, je suggère vraiment d'éviter. Même dans le salon. Du tout blanc, je suggère d'éviter. Et alors, une couleur sur laquelle je prête quand même beaucoup d'attention, c'est le noir.
Oui.
Parce que le noir est quand même très à la mode aujourd'hui.
Tout à fait.
Et le noir, dans notre inconscient collectif, a une notion de luxe. Donc, il y a quelque chose qui nous attire dans le noir. Si vous allez voir les hôtels 5 étoiles, les choses comme
ça, c'est vrai.
Le noir ressort. Les galas, on est en noir. Donc, le noir a quelque chose de très prestigieux qu'on a envie de mettre chez soi parce que ça renvoie une belle image. Mais le noir, dans notre vocabulaire, dans notre inconscient, est une couleur qui est extrêmement lourde. Si on repense à toutes les expressions, et ce n'est pas que dans la langue française, c'est dans plein de langues, les expressions liées au noir, broyer du noir, voir les choses en noir, avoir les idées noires, le mouton noir. Et je l'ai fait en néerlandais, en anglais, en français et en portugais, c'est la même chose.
D'accord.
Et donc, il y a, en tout cas dans nos cultures en Europe, il y a une notion de deuil et de lourdeur associée au noir qui est là.
Même si certaines personnes vont plutôt prendre le côté classe ou le côté...
Et donc là, c'est trouver la, déjà, un, vérifier qu'on n'ait pas cette lourdeur en soi, qu'il n'y ait pas eu de deuil récent, qu'il n'y ait pas eu de... Mais des deuils, ça peut se jouer sur un deuil d'il y a 20 ans, qui n'est pas totalement fini, et donc il y a encore cette énergie qu'on met chez soi. Donc tout le monde va quand même le reprendre comme une lourdeur, peu importe notre histoire. Il y en a pour qui c'est vraiment, vraiment, vraiment à éviter de façon urgente, et d'autres pour qui ce sera un petit peu moins problématique. L'idée, c'est de pouvoir jouer le noir avec des touches beaucoup plus légères qui amènent le luxe, mais qui ne font pas toute une pièce noire, tout un mur noir. Là, on rentre quand même dans quelque chose
et
de plus
lourd. Et dans une chambre, tu mettrais plutôt quelle couleur ou...
On essaye toujours, en tout cas, dans une chambre de couple, parce que chez l'enfant, c'est totalement différent, puisque l'enfant, sa chambre, c'est son territoire. Donc, on travaille comme une maison, en fait. Dans la chambre de couple, on essaye d'être toujours dans des couleurs beaucoup plus chaudes, qui reviennent à l'élément de la terre. Pourquoi ? En fait, c'est les couleurs de contact de la peau. Plus on est proche des couleurs de la peau, plus on est dans le contact. Dans une chambre, il y a le sommeil, il y a l'intimité. Donc, le plus juste, c'est d'être dans ces tons-là.
Ok, très bien. Écoute, c'est très intéressant tout ça. Alors, pour ne rien te cacher, comme je savais qu'on se voyait aujourd'hui, qu'on avait parlé la dernière fois un petit peu de couleurs, mais la dernière fois, j'avais un pull noir. Aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas mettre du noir parce que je sais que Fiona aime bien la couleur. J'ai un pull bleu et je vois que toi aussi, tu es en bleu. Voilà, tu vois, c'est magnifique. Alors, je t'avais demandé la dernière fois si tu avais un rêve immobilier dans un monde idéal. Tu avais répondu que tu serais déjà très heureuse si chacun pouvait avoir une chambre qui permette d'avoir un sommeil réparateur. Est-ce que en deux mots, tu aurais peut-être ajouté à cela quelque chose ? Le sommeil réparateur, on va en parler l'émission prochaine, si tu veux bien.
Oui, j'ai une proposition, ce n'est pas vraiment un souhait, c'est quelque chose qui est venu sur la table récemment. C'est de proposer à toutes les personnes qui sont en location ou en phase de transition et qui ne veulent pas investir, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent même, dans leur lieu de vie, parce qu'ils estiment qu'ils seront là pendant un an, deux ans ou trois ans, à se poser la question de se dire, mais est-ce que ça ne vaut pas quand même un certain investissement de me sentir bien dans le lieu dans lequel je suis maintenant ?
C'est ça.
Plutôt que de projeter dans le futur, parce que je suis persuadée que tant qu'on n'est pas aligné dans notre présent, qu'on n'est pas exactement où on doit être, il y a des opportunités qu'on ne saisit pas, qu'on n'est pas tout à fait au bon endroit pour le futur non plus. Et donc j'invite, parce que comme je viens de déménager, je rencontre énormément de personnes qui me disent « Mais Fiona, tu as investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans un lieu dans lequel tu resteras peut-être que 6 mois. Pourquoi tu fais ça ?» Et donc mon message, c'est parce que c'est maintenant qu'on vit et que tout ce qu'on a... plus on est aligné maintenant, plus les choses pour le futur... roulent et viennent à nous aussi.
Mais c'est sur ces belles paroles que l'on va clôturer cette émission. Merci Fiona Benkens d'être revenue nous voir pour passer ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à la radio toutes les semaines le mardi à 17h30, et rediffusion le mercredi matin à 11h sur le site de la radio, sur l'application de la radio. Vous pouvez nous écouter en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Immo Lounge, ou également nous retrouver sur YouTube en cherchant Immo Lounge. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Immo Lounge. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et j'ajouterai même aujourd'hui de votre habitat. À très bientôt.